La bonne parole du Seigneur, nous ferons notre lecture d'introduction dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Je vous propose de lire à partir du verset 1er. Voilà, Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 1er. Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Nous lisons ceci, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Voilà, donc nous retiendrons en particulier cette exhortation adressée ici aux Hébreux, destinataires de cette épître, à garder les regards fixés sur Jésus-Christ. L'épître aux Hébreux, nous le savons, est écrite à une église composée en grande majorité, pour ne pas dire exclusivement, de juifs convertis au Seigneur Jésus, sans doute dans la ville de Jérusalem. Et si, par le livre des Actes, par exemple, nous savons que ces chrétiens ont trouvé grâce pendant un temps aux yeux de la communauté juive, bien, nous découvrons, en lisant cette épître aux Hébreux, que rapidement, des difficultés se sont élevées, leurs biens leur ont parfois été confisqués, certains d'entre eux ont même été emprisonnés. Les portes du temple, vous voyez, leur sont fermées, ils n'ont plus accès dans ces cérémonies. Les membres de leur propre famille se sont retournés contre eux. Et on a l'impression, en lisant cet épître aux Hébreux, qu'au milieu de cette église composée de juifs convertis, bien plusieurs étaient en train de perdre courage, pour ne pas dire perdre pied dans la foi. Certains étaient prêts à retourner aux éléments de ce judaïsme qu'ils avaient abandonné, voyez, pour retrouver un petit peu de considération près de leurs amis, de leurs parents. D'autres abandonnaient leur assemblée. Il y avait au milieu de cette communauté, voyez, beaucoup de découragement, parfois toutes sortes de phénomènes. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré, poussé par le Saint-Esprit, leur écrit cette épître remarquable que la parole de Dieu nous conserve. Elle fait partie intégrale de la parole de Dieu, pour leur montrer que finalement, tous les sacrifices, toutes les cérémonies de l'ancienne alliance, qui avaient été ordonnées par Dieu, certes, à Moïse, à l'attention du peuple d'Israël, eh bien, quoi qu'elles aient eu leur valeur, elles n'étaient que l'image et l'ombre des choses à venir. Et que la réalité, ce à quoi toutes ces choses tendaient, eh bien, c'est Jésus-Christ qui, en réalité, nous les a amenées. Et le fait d'être persécuté, même pour sa foi, le fait de voir les portes du temple fermées, le fait d'être persécuté par des juifs, ne devait pas empêcher ces Hébreux de maintenir leur confession de foi, de continuer à s'appliquer, à marcher en tant que chrétien, parce que la consommation de toutes choses, bien le ciel, c'est ce pourquoi Jésus était venu. Nous avons un libre accès dans le sanctuaire, écrira l'auteur de cette épître, par la route nouvelle et vivante que Jésus-Christ a inaugurée lui-même au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et tout au long de cette épître revient cette exhortation, approchez-vous, et si vous vous êtes éloigné, approchez-vous de Dieu. Il y a encore cette exhortation, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins, pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce. Et puis ici, donc cette exhortation à garder le regard fixé sur Jésus. C'était extrêmement important. Jésus-Christ, sa personne, nous allons en parler, son œuvre, puis le fait que Jésus, dans les jours de sa chair, lorsqu'il était présent, voyez, venu comme un simple homme, ne s'est pas arrêté à l'opposition qu'il a rencontrée, qu'il a subie, un petit peu à la manière de ses Hébreux, il a aussi trouvé beaucoup d'opposition, et jamais, jamais, il ne s'est détourné du but. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et nous aussi, en tant que chrétiens, même si nous ne nous trouvons pas dans des circonstances semblables à celles des Hébreux, viendra un jour où nous rencontrerons de l'opposition, des difficultés, du découragement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Comment faire? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici, il faut garder le regard, il faut fixer le regard sur Jésus. Il est celui qui crée en nous la foi et celui qui peut la mener à la perfection. Donc, il faut garder ce regard de foi. Ce regard de foi, c'est celui qui, le premier jour, lorsque nous nous sommes convertis, nous a permis de trouver grâce. Vous voyez, la volonté du Père, c'est Jésus qui le dit, c'est que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et il ajoute, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais ce regard, il faut le garder, il faut le conserver, il faut l'entretenir, et il faut veiller à ce qu'il se porte toujours sur Jésus-Christ. Et finalement, en quoi consiste le fait de garder le regard fixé sur Jésus-Christ? Bien, en premier lieu, je relève ceci, c'est de garder les regards fixés sur le sacrifice parfait que Jésus-Christ a offert pour nos péchés. Et il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Jésus est venu pour cela, il est venu pour que nos fautes, le poids de nos iniquités, ce qui nous séparait de Dieu, tombe sur lui. Et par lui, oui, nous sommes délivrés du poids du péché dans la mesure où nous le confessons, nous nous en détournons. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous délivrer, nous purifier de toute iniquité. L'Épître aux Hébreux nous révèle Jésus-Christ à la fois comme le grand souverain sacrificateur. Dieu dont les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'étaient qu'une image, n'étaient qu'un type. Ils ne rentraient d'ailleurs qu'une fois par an dans le lieu très saint avec le sang des animaux qui avaient été sacrifiés. Jésus-Christ est rentré une fois pour toutes, non pas dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est rentré une seule fois dans le ciel avec son propre sang. Il a été ce grand souverain sacrificateur. Et il a parfaitement accompli, vous voyez, cette mission à laquelle le Père l'avait appelé. D'ailleurs, lorsque Jésus-Christ a expiré, lorsqu'il a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, c'est-à-dire qu'il nous a ouvert l'accès à la présence de Dieu. Nos péchés qui nous voilaient sa face ont été expiés. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que, vous voyez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce péché nous enveloppe si facilement. Et le sacrifice de Christ, il a été efficace pour les péchés commis avant notre conversion. Bien, heureusement, béni soit Dieu, il est efficace aussi pour les péchés que nous avons commis en tant que chrétiens. Et si quelqu'un a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut se repentir et il faut dans la foi bien nous confier dans ce sacrifice. Ces choses ont été écrites, hein, dira Jean, pour que vous ne péchiez pas. Vous voyez, le fait de comprendre la grâce, ça ne nous amène pas à vivre dans le péché, mais c'est ce qui nous permet de relever la tête et de poursuivre la course, coûte que coûte. Seigneur, j'ai failli. Tu vois, dans cette affaire, je n'ai pas été brillant, mais je te prie de me pardonner. Et voilà, hein, je ne considère pas ces choses comme à la légère, comme peu de choses, mais c'est le sang précieux de Jésus qui me permet bien de poursuivre la marche. Puis, l'Épître aux Hébreux nous révèle Jésus non seulement comme le grand sacrificateur, mais aussi comme le grand sacrifice. Il s'est offert lui-même. Et il nous a dit que le sang de Jésus-Christ purifie nos consciences. Il purifie nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Et pour servir Dieu, il faut que notre conscience soit purifiée. Il ne faut pas qu'elle soit chargée. Mais qu'est-ce qui peut purifier notre conscience? Sinon l'assurance que la valeur du sacrifice de Jésus est suffisante pour nous accorder la paix du cœur, pour purifier notre âme et nous permettre de bénéficier, non pas sur la base de ce que nous sommes, de nos œuvres, de notre pédigré chrétien, mais sur la base de l'infinie valeur de ce sacrifice, de la faveur de Dieu le Père. Donc, les regards sur Jésus, c'est le fait de fixer les regards sur le sacrifice parfait qu'il a offert pour nos péchés. Et puis, fixer les regards sur Jésus-Christ, c'est aussi bien fixer les regards sur sa personne. Personne glorieuse. Tenez, on va lire quelques versets. Je propose de revenir un petit peu avant dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 1er, voilà le témoignage qui nous est rendu. Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Voilà comment s'ouvre cette épître. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Considérer la personne de Jésus-Christ, c'est considérer la personne de Dieu le Père. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et lorsque nous méditons, lorsque nous réfléchissons sur ce qu'a été, sur ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ, comprenons qui est Dieu. Il nous parle par Jésus-Christ. Il se révèle à nous par Jésus-Christ. Et on va en parler, mais voilà, quand on considère la bonté de Jésus, quand on considère sa perfection morale, sa miséricorde et aussi son jugement sans faille, son discernement, sa piété, bien ça nous parle de la personne de Dieu. Quand on considère le sacrifice de Jésus, ça nous parle de la volonté de Dieu de nous délivrer, de nous bénir, de préparer pour nous une carrière et des plans qui sont pour nous des plans pleins d'espoir, pleins d'avenir, mais aussi des plans d'utilité tant que nous sommes sur la terre. Et tout ça, nous le comprenons en considérant la personne du Seigneur Jésus. Il nous révèle la beauté et la gloire du Père. Voilà, parfois, dans des moments de prière, on comprend qui est Jésus-Christ, et ça nous transforme. Nous-mêmes, on voit notre misère quand on le contemple, et ça nous humilie. Mais en même temps, parce que, précisément, il a versé son sang, il y a le fait de comprendre ce qui nous manque, le fait de comprendre nos propres manquements, le fait de comprendre notre propre misère, notre propre égoïsme, de tout ce qui est en nous, parfois notre folie, bien voilà, on les amène à Dieu, tout ça, pour qu'il les consume, et ça nous transforme. On sent sa grâce qui agit et qui nous fait du bien. Nous sommes transformés, est-il écrit, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, mais nous tous qui contemplons, comme le visage découvert, la gloire du Seigneur. Puis contempler Jésus-Christ, avoir le regard fixé sur lui, c'est aussi le voir en tant que, pas seulement celui qui nous révèle le Père, comme celui qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, mais c'est aussi le voir et le contempler comme l'envoyé, comme l'apôtre de notre foi. Tenez, au chapitre 3, voilà ce qui est écrit. Chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Et Jésus-Christ est non pas simplement le reflet de la gloire de Dieu, mais il est aussi l'envoyé de Dieu, celui qui était venu pour s'acquitter de cette mission qui consistait à réconcilier le monde avec lui-même, à appeler l'Église, à nous se constituer un corps. Et en ceci, eh bien, il a accompli parfaitement tout ce que le Père lui demandait. Il a accompli parfaitement, en parole, en pensée, la loi de Dieu. Et encore une fois, par son sacrifice, il rend possible le rassemblement de l'Église que nous sommes, constitution de ce corps de Christ. Et le fait de le considérer, ça nous permet de tenir ferme. Ça nous permet de tenir ferme lorsque les difficultés se présentent. L'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi, c'est aussi le modèle parfait. Voilà pourquoi il faut garder le regard fixé sur lui. Il est le modèle. Et nous allons y arriver, ce sont les Écritures qui nous rendent témoignage de Jésus-Christ. Il est le modèle en tout. Le modèle en tout. Regardez-le au milieu de ce monde souillé, dans lequel il va précisément se heurter à tant d'opposition. Bien, il conserve dans ses actes, dans ses paroles et dans ses pensées une perfection morale absolue, une pureté que jamais le diable, le péché ne parviendront à entacher. Puis il manifeste au milieu de ce monde et de l'opposition qu'il rencontre un courage et une assurance remarquables pour annoncer tout ce que le Père lui a demandé de dire, pour apporter toutes ses paroles sans en rien cacher. Il manifeste sa compassion. Et malgré cette opposition, jamais le Seigneur n'a On s'est laissé gagner par le ressentiment, hein, comme nous parfois. Injurié, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait pas de menaces. Mais c'est Pierre qui décrit, s'en remettait en toute chose à celui qui juge justement. On peut considérer sa patience. Dans l'évangile de Jean, on le voit, il discute avec les Juifs, beaucoup. Il y a ce récit de toutes ces conversations qu'il a eues. Parfois on se dit, mais comment c'est possible? Lui qui vient du ciel, il est le Fils de Dieu. Comment s'abaisse-t-il à raisonner comme il le fait? Il le fait. Patience de Jésus-Christ. Majesté de sa personne, sa piété, sa recherche du Père. Et parfois, quand tous le cherchent, il sait que c'est le moment de chercher son Père et il s'isole. On le voit à plusieurs reprises dans les évangiles. Sa douceur, sa tempérance, sa détermination depuis le baptême auquel il tient à participer parce que c'est ce à quoi il a été appelé malgré l'opposition pour un temps de Jean le Baptiste lui-même. Laisse faire maintenant, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste, jusqu'à la croix, où, à partir de ce moment où il fixe résolument sa face vers Jérusalem, il ira jusqu'au bout, après cette lutte de Gethsémané. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis ce renoncement à lui-même, lorsqu'on considère ce modèle, oui, nous sommes humiliés, on voit bien le chemin qui nous reste à parcourir, on voit de manière plus vive ce qui nous manque. Et puis en même temps, vous voyez le fait de fixer les regards sur le modèle. Précisément à cause du sang de Jésus-Christ, de cette réalité que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça nous permet, faisant l'expérience de notre misère, d'en être purifiés et de nous appliquer à pratiquer ce qui plaît à Dieu. Seigneur, permets-moi de tirer la leçon de ce que j'ai vu là en moi, de cette réaction, de la porte pour que tu la purifies. Et que tu me gardes de me placer encore dans cette situation. Elle a été pour moi une cause là de mauvaise réaction. J'ai failli. Hey, Seigneur, lave-moi et donne-moi ce discernement pour m'appliquer. Et donne-moi de veiller sur mon cœur. Tu vois, dans telle circonstance, il y a eu de l'amertume, il y a eu du ressentiment. Lave-moi et permets-moi de ressembler à Jésus-Christ. Permets-moi de lui ressembler. C'est possible, ça, parce que la parole de Dieu agit en nous. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné aussi. C'est une réalité, ça. Et parfois, vous voyez, dans nos luttes et nos combats, on sent bien que si on était tout seul, on n'irait pas loin. Mais le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous est une réalité. Il crée en nous le vouloir et le faire. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est si nous le demandons, si nous le désirons, dans nos luttes et nos combats, parfois, où c'est une âpre lutte. Seigneur, je choisis de penser ce que tu veux que je pense. Je choisis d'éprouver ce que tu désires que j'éprouve. Je choisis de renoncer à ce qui te déplaît. Il y a ce cantique qui dit, je sors de cette lutte, meurtri, mais tout vainqueur. Tout meurtri, mais vainqueur. Voilà. Et ça, c'est possible dans la mesure où nous gardons les regards fixés sur Jésus. Comment garder les regards de notre foi fixés sur Jésus? Et en premier lieu, avant tout, vous le contemplez dans l'Écriture. Les Écritures nous ont été données pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Elles révèlent Jésus-Christ lorsqu'on lit la Bible, toute la Bible, toujours, toujours, toujours. L'Écriture, elle nous révèle, elle nous ramène, elle nous permet de contempler Jésus-Christ. On va simplement lire ce verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 39. Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 39. Voilà, précisément, nous évoquions ces longues conversations, ces échanges que le Seigneur a eus avec les chefs religieux du peuple d'Israël. Et au cours de l'un de ces échanges, voilà ce que le Seigneur va leur dire. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors le temps nous manque, et simplement, bien sûr, quand on lit les livres de Moïse, même les commandements, prescriptions détaillées relatives au sacrifice, à la loi, etc. Mais tout ça nous parle de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, il y a des livres plus difficiles à lire que d'autres. Le livre du Lévitique, ce n'est pas facile. Mais vous voyez, quand on avance un peu dans la foi, dans la connaissance, on voit que voilà, il y a des choses précieuses. Tous ces sacrifices qui étaient offerts, mois après mois, année après année, semaine après semaine, jour après jour, ça nous parle, d'une manière ou d'une autre, de ce que Jésus-Christ peut être pour nous, de la manière, des manières dont il peut nous laver, nous purifier, de tout ce que représente son sacrifice pour nous, par exemple. Dans les psaumes, il y a tellement de psaumes qui parlent de la gloire de Jésus, qui parlent de ses souffrances, qui parlent de son sacrifice. Les prophètes. Et puis, bien sûr, il y a les évangiles qui nous révèlent là du point de vue de témoins oculaires de sa vie, de ses miracles, de son enseignement, de sa mort et de sa résurrection, de son enseignement. Voilà, tout ça, ça nous parle de ce qu'il est. Les épîtres qui appliquent toutes ces choses à nos besoins particuliers, aux besoins de l'Église, certaines situations, certains problèmes qui à nouveau aujourd'hui émergent, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dans nos vies et dans la vie de l'Église. Voilà, toute l'Écriture nous révèle Christ. Et c'est important de la lire, de veiller à ce qu'elle ne s'éloigne pas de nous, de ce que nous ne nous éloignons pas d'elle. Elle agit en nous qui croyons. La parole vivante et permanente de Dieu. Et comment agit-elle? Mais en nous révélant Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Puis, regardez Jésus-Christ, le contempler en le cherchant dans la prière. En prenant un temps pour être aux pieds de Jésus. Voilà, on connaît tous hein, cet épisode de Marthe et de Marie. Et Marthe elle était sincère, Marthe, et Jésus l'aimait. Mais elle s'affairait beaucoup. Et même, elle va souhaiter que sa sœur vienne l'aider. Mais c'était le moment où Marie se tenait aux pieds de Jésus pour l'entendre, et le Seigneur a discerné à ce moment-là que c'est ce qu'il fallait faire. Il va le dire. Prenons un moment pour entendre la voix de Jésus. L'Écriture nous révèle Christ, bien sûr, mais il y a aussi des temps où le fait de se mettre à part, le fait de prier, c'est nécessaire, ça. Et vous voyez, pour que ce que nous découvrons dans l'Écriture, ça pénètre en nous, et il faut garder ce moment. Dieu est bon, et quand on le cherche, il se laisse trouver, il nous parle. On peut expérimenter son soutien. Parfois, il y a des épreuves desquelles Dieu nous délivre. Tenez, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il écrit au début du chapitre 12. Qu'est-ce que c'est, cette grande nuée de témoins? Bien, c'est tous les hommes de foi qui sont énumérés dans le chapitre 11. De l'Épître aux Hébreux. Hein. Ça commence par les patriarches et voilà, l'auteur parcourt un petit peu tout l'Ancien Testament. Il savait que ses arguments les portaient, il s'adressait à les Hébreux. Donc, tous ces exemples-là, ils nous parlent. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Mais, pour que toutes ces choses agissent en nous, il faut qu'on cherche le Seigneur. Il faut entendre sa voix. Parmi cette nuée de témoins, bien des hommes ont été secourus. Les compagnons de Daniel ont éteint la puissance du feu par la foi. D'autres ont recouvré leur mort. Et puis, dans cette même liste, vous avez des gens qui n'ont pas obtenu la délivrance, qui ont été lapidés, torturés, sciés à cause de leur foi. C'était la même foi. Il ne faut pas, gardons-nous de penser que si l'épreuve se poursuit, c'est parce qu'on n'a pas assez de foi, parce que ça nous fait du mal, cette pensée. Non, non, parfois l'épreuve se poursuit parce que Dieu le permet. Et l'important, c'est de garder la foi, même si l'épreuve se poursuit. Et voilà ce que l'auteur de l'Épître dit. Et pour le comprendre, ça, prenons un moment. Parfois, donc, Dieu nous délivre. Béni soit son nom pour toutes les fois où il nous a délivrés et où il le fera encore. Mais lorsque l'épreuve se poursuit, que Dieu le permet, et parfois il nous visite simplement, il nous donne sa force, il nous permet de la supporter, C'est Paul qui parlera aux Philippiens de la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Je me souviens du témoignage, ça m'avait marqué, de cet homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu avec sa femme. Ils étaient allés porter leur petite fille, je crois, à l'hôpital. Et tous les médecins étaient très inquiets parce qu'il y avait des signes inquiétants. Il y avait une maladie et la médecine atteignait ses limites. Et en descendant les escaliers de cet hôpital, ce serviteur de Dieu qui était accompagné de sa femme se tourne vers son épouse et lui dit « Écoute, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais malgré tout ce qu'on nous a dit, même si je voulais m'inquiéter, j'y arriverai pas. » Et sa femme lui répond « Mais c'est pareil pour moi. » Et pendant plusieurs semaines, la maladie de cet enfant, elle n'a pas régressé. Et plusieurs semaines après, Dieu est intervenu. Mais ils étaient gardés dans sa paix en attendant l'intervention de Dieu. Je pense aussi à ce témoignage d'un chrétien rencontré là sur le plan professionnel, une sérieuse difficulté, ça l'inquiétait, ça consumait toutes ses pensées, tout son temps. Et voilà qu'un jour, il était dans son fauteuil, il lisait l'Écriture, et voilà, il était en prière, il s'adressait à Dieu, et il ne pensait pas forcément à ce problème-là. Et d'un seul coup, dans son fauteuil, il a eu l'assurance. Ce n'est pas lui qui l'a fabriqué, ce n'est pas de l'auto-persuasion. Il a eu l'assurance, par l'Esprit de Dieu, que Dieu allait intervenir. C'est comme si Dieu lui disait, il n'a pas entendu de voix, il n'a pas eu de vision, mais c'est comme si Dieu lui disait, il a compris là, dans sa conscience que Dieu allait se charger lui-même de cette situation dans laquelle il ne pouvait rien faire, et c'est ce qui est arrivé. Donc il y a eu cette grande paix, et dans les semaines qui ont suivi, Dieu est intervenu. Donc, on en revient à notre propos, chercher, garder les regards fixés sur Jésus, c'est aussi prendre ce moment où, dans la prière, nous nous approchons de lui, nous l'entendrons nous parler, pouvons nous-mêmes nous décharger sur lui, l'Écriture nous exhorte à le faire, nous décharger sur lui de tout souci, car lui-même prend soin de vous. Et puis, si nous pouvons lui parler, nous pourrons aussi l'écouter. Parce que Dieu est un Dieu qui parle, et il parle par Jésus-Christ. Et quand il nous parle, c'est tellement précieux, ça nous fait tellement de bien. Garder les regards sur Jésus. Par l'Écriture, par la prière, en portant les regards sur nos frères et sœurs chrétiens, nous voyons Jésus-Christ. Gardons le regard sur lui. Tenez, Philippiens chapitre 3. Ah, c'est le micro-cravate là, qui fait du bruit. Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17, écoutez bien, c'est Paul qui écrivait ceci depuis sa prison, il était emprisonné à Rome, il écrivait aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Voilà, à plusieurs reprises dans ses épîtres, Paul exhorte les chrétiens à porter les regards sur lui, pas du tout de l'orgueil, mais Paul avait conscience de ses limites. Et il avait conscience de s'efforcer de marcher comme Dieu l'appelait à marcher en Christ. Et s'acquittant de sa vocation, il dira aux chrétiens qu'il s'adresse bien, « Regardez, portez le regard sur moi. » Et il ajoute ici, « Portez aussi le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Dans l'Église, quand on voit nos frères et sœurs vivre, ça nous parle. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Mais oui. À travers une prise de position courageuse de mon frère ou de ma sœur, ça me parle de Jésus, ça. Ça me fait voir qui Jésus est. Ce que je vois mon frère ou ma sœur s'acquitter d'une œuvre de miséricorde, ça me touche. Pas forcément parce que ça se manifeste envers moi, ça peut, mais simplement voir d'autres chrétiens, vous voyez, accomplir un acte de miséricorde, je vois Jésus. Parfois, le fait de voir un frère ou une sœur dans sa piété, dans sa vie, à travers ses réactions, sa patience, on voit Jésus. Et c'est important de le regarder. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et que Dieu nous garde, n'est-ce pas, d'éprouver quelques jalousies. Parfois, oui, on a dans l'Église des hommes ou des femmes qui nous servent de modèle. Béni soit Dieu pour eux. Et forçons-nous aussi. C'est important pour nous C'est important pour le plan de Dieu. C'est important pour ceux qui nous regardent. Que l'on puisse envoyer à ceux qui nous regardent l'image de Jésus-Christ. Enfin, garder le regard fixé sur Jésus, eh bien, c'est le regarder au travers les circonstances que Dieu permet et l'enseignement du Saint-Esprit de Dieu, car le Saint-Esprit nous enseigne. Vous avez reçu une onction, elle est véritable, elle vous enseigne toutes choses, écrira Jean. Et ça, on la voit à l'œuvre, on voit Jésus à travers l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans les circonstances, dans la providence divine. On va le relire, ce sera les derniers versets que nous lirons, ces versets bien connus, Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Il nous est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Voilà, on va un peu plus loin. Verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, le but de Dieu, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et nous l'avons dit, il travaille dès à présent, lorsque nous le regardons, nous sommes transformés. Béni soit Dieu pour les progrès que nous avons réalisés. Voilà, ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui le fait et il continue à le faire. Et parfois, à travers les circonstances, à travers la providence, à travers les événements, favorables ou défavorables, eh bien Dieu nous parle, il nous révèle son Fils, même à travers les circonstances. Et oui, parce que à travers la manière dont nous réagissons dans les circonstances, eh bien nous voyons nos limites. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes et le fait de nous connaître en tant que chrétien, ça nous conduit à regarder à Jésus. Voilà. Je lève mes yeux vers lui pour le contempler, pour voir sa splendeur et sa gloire. Que Dieu nous bénisse, que nos yeux demeurent fixés sur lui par les moyens que Dieu met à notre disposition, on l'a dit, l'écriture, la prière, la communion fraternelle, la foi dans les circonstances, puis regarder, contempler Jésus comme nous l'avons défini, son sacrifice, sa personne glorieuse, reflet et empreinte de la gloire du Père, l'envoyé de Dieu, le divin modèle, que Dieu nous bénisse. Nous avons tout pleinement en lui. Venons le recueillir quelques instants. Merci Seigneur.